L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Paris, 20 novembre 1929. Il est aux alentours de 18h. C'est l'effervescence dans une galerie d'art située rue de Seine, dans le 6e arrondissement. Les jeunes artistes qui s'entassent dans le minuscule espace sont pour la plupart méconnus, ou du moins taxés de subversion. Presque tous surréalistes. Il y a là pourtant tout l'avenir de la poésie et de la peinture moderne. On y croise André Breton, le pape du surréalisme, son ami Aragon, le poète Robert Desnos et surtout Paul Éluard, le poète surréaliste le plus en vue. Il publie déjà chez Gallimard. René et Georgette Magritte sont venus en voisins. Ils viennent de quitter la Belgique et de s'installer en région parisienne. Il y a moins d'un mois, Wall Street s'est effondrée, provoquant une série croissante de faillites. Un monde va s'écrouler tandis qu'eux sont en train d'en ériger un nouveau. Le crash financier, y ont-ils prêté attention? Pas sûr. Plongés qu'ils sont dans leur insurrection artistique, dans leur incursion dans des zones inconnues. Peut-être le galeriste Camille Gouman s'est-il inquiet, sûrement d'ailleurs. Ces faillites vont freiner le marché de l'art, pense-t-il. Mais il n'a vraiment pas le temps de s'en soucier ce soir. C'est un Belge, poète, ami des surréalistes. Il a décidé de promouvoir les débuts de René Magritte. Et ce soir, il inaugure une exposition pour le moins iconoclaste. Au Simez, partout, il n'y a que des toiles d'un jeune Espagnol totalement inconnu, un certain Salvador Dali. C'est sa première exposition à Paris. Goumans, qui a le nez fin, vient de signer avec lui un contrat de 2 ans. Toutes les toiles de l'exposition seront vendues, entre 6 000 et 12 000 francs. Le vicomte de Noailles achètera pour un prix fou le jeu lugubre, à peine terminé. Seulement voilà, Goumans a un problème. Il fulmine. Le public réclame l'artiste. Ouais, mais l'artiste est absent. Juste un peu avant ce vernissage, Salvador Dali est bienvenu à Paris lui apporter ses dernières toiles et ses derniers dessins. Mais depuis, il y a 2 jours qu'il a disparu. Timidité, désinvolture, caprice. Il est presque 18h. C'est le rush de mon histoire. Où est Salvador Dali? Camille Goumans, le galeriste, est indigné. André Breton, qui a rédigé le catalogue de l'exposition, l'est autant. Seul Paul Éluard est calme, sans amertume. Il a compris. Son épouse Gala ne l'a pas accompagné au vernissage. Elle a disparu depuis 2 jours, elle aussi. Autour de lui, admirateurs et sceptiques débattent de l'inspiration de Dali. Où est Dali? Et où est Gala, la muse du groupe surréaliste? Il conviendrait plutôt de se demander où sont-ils tous deux. Paul Éluard a l'habitude de ce genre de comportement. Il devine une nouvelle amourette de Gala, un dernier caprice d'été. Ce qu'il ignore, c'est que ce 18 novembre 1929, juste 2 jours avant le vernissage, son épouse a persuadé Dali de s'attacher à elle, de quitter Paris, de prendre le train vers une solitude à deux dans l'automne catalan. Loin de la grisaille parisienne, Dali et Gala marchent en ce moment même sur les plages désertes de Sitges, au sud de Barcelone. Main dans la main, corps à corps, ils passent leur lune de miel sur le sable. Que s'est-il passé? Pour le comprendre, il nous faut remonter à l'été qui vient de s'achever, à la mi-juillet de cet été 1929. À Cadaqués, petit village catalan bordé par la Méditerranée, à l'est de Figueras, la ville où est né Salvador Dali en 1904. Dali a invité quelques amis surréalistes à descendre en Espagne et à venir le rejoindre en plein été, dans ce minuscule village. C'est là qu'est né son père, notaire de profession. C'est là que se trouve leur demeure estivale, là où Salvador, depuis l'enfance, passe ses vacances. Il a donc convié son galeriste, Camille Goumans et sa compagne, ainsi que Magritte et son épouse Georgette, et bien sûr, bien sûr Paul Éluard, sa femme Gala et leur petite-fille Cécile. Il faut dire que, dès leur rencontre, le courant est passé entre Dali et Paul Éluard, le poète qu'on nomme l'ami des peintres. Cet été-là, les Éluard passent leurs vacances à Nice et Cannes. Et c'est de la Côte d'Azur qu'ils sont en train de gagner la Catalogne pour un rendez-vous qui va s'avérer crucial, mais dangereux. En attendant ses invités, Dali peint, obstiné, motivé par son contrat de 3000 francs avec Goemans. Il peint comme à son habitude, en totale solitude, presque nu, dès les premières lueurs de l'aube avec sa palette solaire. Il a posé son chevalet dans la maison familiale où règne son père, homme rude et fier. Dali a perdu sa mère. La demeure d'été des Dali fait face à une petite plage que l'artiste se plaît à peindre. C'est de là qu'on a la vue la plus enchanteresse sur les villages immaculés de Calaqués. Il travaille, retravaille sa peinture, le jeu lugubre, encore inachevé. Il extirpe de ses propres tensions internes des images inexplorées. Sauterelles, galets, escargots, lèvres vulves, hommes aux pantalons maculés d'excréments, il sonde l'inavouable de son propre inconscient. Tente avec ses pinceaux de se libérer de son enfance, de se soustraire à la tyrannie protectrice de son père, à l'amour étouffant que lui voue sa sœur Anna Maria. Il est secoué par des crises d'hystérie et de rire qu'il provoque d'ailleurs artificiellement pour clamer son désir de rompre avec l'étouffoir familial. Son père, excédé, se demande si son fils n'est pas un peu fou. Mais non, non. Non, petit à petit, il devient Dali. Dans l'après-midi, le peintre saute dans sa barque et rejoint son cher cap de Créus. Il connaît la vie imaginaire de chaque rocher. C'est son domaine, son inspiration majeure, son exutoire. Pendant ce temps, les Éluard roulent vers Calaqués. Le voyage leur paraît interminable. En plein soleil, leur voiture cahote entre buissons épineux, chardons, fenouil et oliviers. Il y a d'abord eu la route jusqu'à Perpignan, puis Collioure, l'entrée en Espagne. Voici maintenant les collines du sud catalan. La route est à peine plus large qu'un sentier de chèvre. Elle s'enroule comme un serpent dans un paysage minéral. La chaleur est intenable. Calaqués est un lieu qui se cherche. Tant ça s'arrêtera jamais, on arrive quand ? Demande la jeune femme. Et elle est où la mer ? Questionne leur petite-fille Cécile. L'homme, les mains sur le volant, se tait, attentif à la route de cailloux. Ah, c'est vrai. La mer, on la cherche, mais on ne la voit jamais. Décidément, Dali avait raison. Calaqués est un lieu qui se mérite. La route grimpe, la route plonge. L'homme sur le volant pose ses mains de poète. Il est un des plus grands de la décennie, un des plus lyriques du mouvement surréaliste. Il est un des fleurons de ce groupe qui commence à faire parler de lui. De son vrai nom, Eugène Grindel. Éluard publie des poésies depuis 1914. À ses côtés, Madame Grindel, prénommée Gala, une Russe de naissance, ne cesse de le récriminer. En la Côte d'Azur, c'était plus beau, hein, c'était plus chic. Ah ça, c'est pas dans cette cambrousse qu'elle pourra porter ses belles tenues, c'est ailleurs. En fille de l'Est, elle déteste la chaleur et ne parle pas un mot d'espagnol. Éluard esquisse un sourire patient. À l'arrière du véhicule, leur petite-fille Cécile, elle, veut voir la mer. Et soudain, la route sort d'un gouffre de terre rouge. Et c'est le miracle. Des maisons badigeonnées de chaud, du blanc, du bleu, de l'émeraude, du calme. Calaqués. Calaqués est un modeste village de pêcheurs, sans luxe, mais avec une beauté sauvage sans pareil. Les Éluard glissent soudain dans un bout du monde. Leur automobile soulève la poussière des rues minuscules, construites en toboggan. Gala, qui préfère Paris et la Côte d'Azur, ne cesse de ronchonner avec son accent russe. Qu'est-ce qu'on est venu foutre dans ce bled ? Les Éluard arrivent les derniers. Ils ont rendez-vous avec deux Espagnols, Dali le catalan et son ami, le cinéaste de Saragosse, Luis Buñuel. C'est avec lui, l'année précédente, que Dali a écrit un film iconoclaste, Le chien andalou, célèbre pour sa scène culte du rasoir qui tranche en deux l'œil d'une femme. Paul Éluard se réjouit de retrouver aussi les quatre Belges, les Goumans et les Magritte. Tous sont venus pour mieux connaître cet étrange Dali. Ce dernier tire une certaine fierté à la pensée que ces grands artistes ne se sont déplacés que pour lui, attirés par son étrange personnalité. Ils se sont promis des rencontres, des échanges, du farniente. Ils espèrent un séjour enivrant. Il le saura, mais pas comme il l'imagine. Aucun d'eux n'imagine la déflagration qui va déchirer certaines vies. Ce sera artistique, émotionnel, sensuel, onirique. Et quelle concentration de talent! Tous artistes, tous deviendront mondialement célèbres. Pour l'heure, ils se sont promis quelques jours, 2 ou 3 semaines au plus, au bord des vagues et des rochers mordorés du cap de Creus. Ce sera, pense-t-il, un été en espadrille. Erreur, ce sera un séisme amoureux. Il y aura de tout, de l'art, des couleurs, de l'amitié animée ou bafouée, des corps bronzés, du désir, de l'hystérie, du génie et des ruptures. Aucun d'entre eux ne s'y attend. Ces impatients sont eux-mêmes un séisme, artistique celui-là, depuis 4 ans. Ils lancent des bombes explosives à la gueule d'une société en train de pourrir, d'un monde en train de mourir. Tout a commencé en 1924, quand Breton a publié son « Manifeste du surréalisme ». Le monde d'avant 1914 était mort. On a vu le résultat de l'hécatombe. On repart donc à zéro, même pas, de moins zéro. Freud est passé par là et a mis dans la tête de ses artistes le désir d'explorer la face cachée d'eux-mêmes. Ils font appel à l'écriture et à la peinture sans contrôle, ni de la raison, ni de la morale. À quoi donc ces valeurs caduques serviraient-elles encore? Ils explorent le hasard des mots et des images, leur rêve aussi, même éveillé. Paul Éluard ne vient-il pas de lâcher ce vers magnifique dans son dernier recueil à la NRF, Nouvelle Revue Française? La terre est bleue comme une orange. Au lecteur de rêver, pour les surréalistes, la poésie doit être faite par tous. À peine arrivés, les Éluard cherchent Dali dans le village. Il est 11 heures du matin quand leur voiture s'arrête devant sa maison. Ils le trouvent sur la plage, en compagnie des Magritte et de Camille Goumans, venue avec sa petite amie. C'est un jour comme les autres, notre Dali. Et pourtant, les 3 points de suspension sont en lui-même, dans ses mots et dans son regard. Exténués, les Éluard souhaitent aller se reposer à l'hôtel Miramar. Dali a eu juste le temps de voir le visage de Gala. Intelligent, certes, mais de méchante humeur. Contrarié d'être dans ce lieu qu'elle semble exécrer. Ça ne durera pas. À 5 heures, ils se retrouvent tous à une terrasse, sur la petite place du village, face à la mer. Dali en profite pour parler à Gala. Elle est surprise de la rigueur de ses théories sur l'art. Elle lui confesse que le matin, elle l'a trouvé insupportable et antipathique avec ses cheveux gominés pommadés. « J'ai cru que vous étiez un danseur de tango argentin », lui avoue-t-elle. Dali converse aussi avec son mari et prend conscience qu'il s'agit là d'un très grand poète, de la classe de Federico Garcia Lorca. Et puis, rendez-vous est pris le lendemain matin pour un bain de mer.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, nous partons en 1929. Alors que le crash financier vient de secouer le monde, nos protagonistes du jour inventent une autre réalité poétique, artistique, surréaliste. Un monde bien à eux, fait de poèmes et de peintures. Et leurs vacances à Calaques, charmant petit village espagnol, vont être témoins d'un amour naissant entre Salvador Dali et Gala, l'épouse du poète Paul Éluard. Le lendemain de leur première rencontre, Dali guette par la fenêtre l'arrivée de Gala. Elle est là et son cœur s'affole. Car la veille, il a suffi qu'elle ouvre sa portière, qu'il la voit, qu'il croise son regard. Il a eu un coup de foudre. Ce matin, il s'est préparé pour la séduire. Avec l'excentricité de Dali, il faut s'attendre au pire. Il arrive avec son rire hystérique, une branche de géranium derrière l'oreille. Il s'est rasé le corps à la lame gilette, s'est parfumé avec une mixture infecte. Il porte un pantalon blanc, un collier de fausses perles, une chemise de soie échancrée et un bracelet au poignet. Gala remarque qu'il est cuit par le soleil. Elle se demande aussi s'il n'est pas homosexuel. C'est d'ailleurs sous le nom de Femmelette que Dali est connu à Calaquès. Le candidat-on s'est occupé de sa réputation et à l'époque, elle n'était pas tendre. Mais ce ne sont probablement que des rumeurs. La sœur de Dali, Anna Maria, est là aussi. Immédiatement, on la sent mal à l'aise avec les nouveaux amis de son frère. Si elle avait été chatte, elle aurait sorti ses griffes, surtout quand elle voit Gala. Cette femme, comprend-elle, va éloigner son frère de ses amis espagnols, d'elle-même et surtout de lui-même. La jalousie est déjà là. Anna Maria se sent menacée, exclue par ces inconnus venus de Paris. Après le bain de mer, on pique-nique sur la plage. Dali et Éluard se sentent de plus en plus proches. Le catalan commence un portrait surréaliste du poète. L'amitié s'anime. Mais un autre sentiment bouleverse Salvador. Il a 25 ans et, pour la première fois, il dit porter en lui, je cite, « le poids mûrissant de l'amour qui naît et s'agrippe à sa gorge ». Il a suffi que Gala ouvre sa portière. Il a suffi de ça pour qu'il se dise en lui-même « je suis donc un homme de 1929 à Calaquès ». Ses invités commencent à être agacés par ces crises de rire insupportables. En guise de diversion, il joue à lancer des pierres dans l'eau. Luis Buñuel est déçu car il est venu pour travailler sur un second film avec son ami et il tombe en pleine éclosion d'une attirance qui va devenir aussi célèbre que celle entre Laure et Pétrarque. Buñuel n'en peut plus. Salvador ne parle plus que de Gala. Il veut l'extirper de cette domination qu'il commence à pressentir. L'explosion a lieu au cours d'un de leurs pique-niques. Buñuel affirme devant Dali que le paysage de Cap de Creus lui rappelle le tableau d'un peintre mineur. En colère, le peintre hurle « Comment peux-tu dire de pareilles âneries devant des rochers aussi beaux ?» Le conflit s'envenime. Gala s'en mêle et donne raison à Dali. Tout le monde a beaucoup bu et Gala continue à agresser verbalement le jeune cinéaste. Ce dernier bondit, saisit la femme d'Éluard, la jette par terre et lui serre le cou entre ses deux mains. La petite Cécile s'enfuit en hurlant. Dali, à genoux, supplie Buñuel, qui resserre son étreinte. Ce qu'il veut, c'est la terrifier, voir le bout de sa langue passer entre ses dents. Finalement, avec beaucoup de contrôle, il lâche le cou de Gala et immédiatement quitte Calaquès. Le lendemain, le groupe, un peu décontenancé, se retrouve. Il y a de la gêne et même de l'électricité dans l'air. D'autant que l'empathie ne domine pas la rencontre d'Ali Magritte. Certains surréalistes parisiens considèrent d'ailleurs le Belge comme un peintre pompier. De son côté, Magritte voit l'Espagnol comme un peintre superflu, un demi-fou. Le catalan solaire et l'artiste froid du Nord n'ont rien à partager. On peut aussi penser que Magritte nourrit un ressentiment à l'égard de Dali. En effet, ce dernier a été reconnu sur le champ comme un génie par tout le groupe surréaliste, alors que Magritte a connu un accueil plus que tiède. À Calaquès, il ne peint qu'une seule toile, le temps menaçant. Il y suspend un buste féminin, un gigantesque tuba et une chaise dans un ciel pur. Mais son ciel est moins bleu que les azurs de Dali. Et les rochers du Cap de Creus, qui soulignent son horizon, trempent dans des couleurs sombres, presque inquiétantes. Pas la même palette, pas la même sensibilité. Magritte, d'ailleurs, aura rapidement une première brouille avec Breton et les surréalistes parisiens. Mais Dali, lui, est loin de ses divergences. Il ne s'intéresse qu'au corps de Gala Éluard. Ses omoplates, ses muscles souples, sa silhouette qui mûrit sa jeunesse, le creux de son dos extrêmement féminin, les fesses très fines et surtout cette taille de guêpe qui la rend si désirable. Comment ai-je pu passer la journée d'hier sans rien soupçonner ? Se demande-t-il. Soucieux de contenir sa folie ou son amour fou, il n'a d'égard de pensée et d'attention que pour cette femme. Il l'entoure de petits soins, lui présente son Cadaqués, ses paysages. Il ne pense qu'à organiser une promenade au cours de laquelle il pourrait frôler sa main. Pas encore la prendre, mais seulement la toucher. Gala a beau être curieuse, elle ne perçoit pas les sentiments du jeune peintre. Peut-être pense-t-elle qu'il est névrosé. Les Goumans mettent ses fous rires sur le compte d'une nervosité exagérée, d'une création trop intense. Le seul qui ait compris l'amalgame en train de naître, c'est Éluard. Il connaît sa Gala qui a le diable au corps, mais il croit à une simple idylle instinctive. Il évalue les distances entre les deux êtres. Le soir, Dali propose à Gala d'aller la prendre à l'hôtel Miramar le lendemain. Ils se promèneront dans les rochers, ces chères concrétions qu'il projette dans presque toutes ses toiles. Sur les rochers du matin, Dali sent cette chair si proche de la sienne. Il est prêt à toucher sa main, à étreindre sa taille cambrée qui incendie son regard. Mais non, non, c'est la main de Gala qui prend la sienne. Avec un effort surhumain, elle presse davantage cette main. Elle a compris. Ses fous rires ne sont qu'abîmes et terreurs. Et elle a raison. Ses crises sont artificielles. Dali les provoque de lui-même pour se protéger de l'autorité paternelle. Elle l'a déjà démasqué. Elle le regarde et lui murmure cette phrase décisive. « Mon petit, nous n'allons plus nous quitter. » Ainsi va-t-elle guérir Dali de lui-même, débloquer ses frayeurs, ses inhibitions, ses complexes. Elle était parvenue à saboter et à détruire ma solitude, écrira-t-il. Les jours se suivent, de même que leurs excursions dans les rochers du Cap. Il exige qu'elle l'accompagne sur les promontoires les plus dangereux, mais déjà, il craint qu'elle lui fasse du mal. Il est pris d'une peur panique. Surtout ne me faites pas mal, supplie-t-il. Moi non plus, je ne vous ferai pas mal. Il faut que nous ne nous fassions jamais mal. Il grimpe plus haut, contemplant le panorama qui couvre la baie de Cadaqués. Essoufflé, fatigué, son enthousiasme amoureux n'a rien de commun avec les liaisons qu'a vécues Gala jusqu'ici. Quand il la ramène à l'hôtel Miramar et qu'elle rejoint Éluard, Dali se parle à lui-même. C'est affreux. Tu as passé ta vie à désirer ce qui arrive et maintenant que le moment approche, tu meurs de peur, Dali. Le lendemain, nouvelle balade, cette fois dans les champs d'Olivette. Gala commence à lui parler de quelque chose d'inévitable qui devrait se passer entre eux. Il se jette à terre pour embrasser ses souliers. Il évoque le tableau qu'il est en train de peindre, l'accommodation des désirs. Sur la toile, ses désirs prennent la forme de lions terrifiants. Cet été-là, dès sa rencontre avec Gala, il inaugure une nouvelle manière de peindre. Il attend que remonte à la surface de lui-même des images subconscientes pour les jeter sur sa toile. Quitte à attendre longtemps avant que germe une nouvelle image, il devient ainsi le plus surréaliste du groupe surréaliste. Son surréalisme est totalement autobiographique. Mais en lui, devant cette femme, quels sont ses désirs? Il n'a encore jamais fait l'amour. Cet acte lui semble d'une terrible violence, incompatible avec sa propre virilité. Il emmène Gala face à la mer. Le vent est violent. La scène qui va se jouer le sera aussi. Dali l'entoure de ses bras, lui demande « Que voulez-vous que je fasse ?» Et elle lui répond « Si vous ne voulez pas le faire, vous ne le direz à personne. » Il baise ses lèvres qui s'entr'ouvrent profondément, un plaisir qu'il n'a jamais connu. Dali dira qu'il a mangé la bouche de Gala. Il s'anéantit dans ce baiser vertige, rejette en arrière la tête de Gala, la tire par les cheveux. « Dites-moi maintenant ce que vous voulez que je vous fasse, mais dites-le-moi lentement, en me regardant dans les yeux. » et avec une moue dure, tyrannique. Elle lui lance définitivement « Je veux que vous me fassiez crever ». Cet appel dit bien ce qu'il veut dire. C'est à cet instant que leur destin bascule. En août, les invités repartent pour Paris. Paul Éluard aussi, un peu désorienté, mais il en a vu d'autres. Gala reste seule à Cadaqués. Le catalan se dit qu'il va profiter d'elle, qu'elle va lui apprendre à faire l'amour, puis qu'elle rejoindra son mari à Paris, le laissant seul avec sa solitude d'artiste. Finalement, elle reprend le train pour Paris et lui reste seul à Figueras. Il a gardé le maillot de bain en laine qui garde l'odeur de Gala. Il reprend sa vie monacale, finit le portrait d'Éluard et une immense toile, le grand masturbateur, où, sorti d'une masse molle et mouvante, une tête livide aux longs cils approche sa bouche d'un pénis moulé dans un maillot immaculé. Est-ce déjà l'image de Gala ? L'inconscient de cet artiste est un magma impénétrable.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, nous revivons la rencontre du jeune Salvador Dali et de sa future muse Gala, alors épouse du poète Paul Éluard. Nous sommes en 1929 et le petit groupe d'artistes surréalistes vient de séjourner dans le petit village de Cadaqués, si cher au peintre espagnol. Depuis que Gala est remonté à Paris, Dali est donc seul à Figueras, sa ville natale. Mais il ne pense qu'à Gala, à chaque minute, à chaque coup de pinceau. Le moment de son exposition parisienne approche. Il gagne la capitale avec les dernières toiles qu'il confie à Camille Goumans pour l'exposition programmée du 20 novembre au 5 décembre 1929. Dali retrouve Paul Éluard qui, dénué de toute jalousie, lui confie que Gala attend sa visite. Et deux jours avant le vernissage, le 18 novembre 1929, Gala et Dali s'évadent de leur vie, s'esquivent en secret, prennent le train pour Barcelone. Sur la plage déserte de Sitges, une station balnéaire toute proche, les voilà seuls au monde. Ils ne sont préoccupés que de leur corps, racontera-t-il. Et c'est ici que nous rejoignons le début de notre récit. Au moment où je vous racontais, chose inattendue et incongrue, que Salvador Dali ne participe pas à l'accrochage de sa première exposition parisienne. Il tourne le dos à cette chance majeure, comme si la vie était plus convulsive que l'art. Il sera donc absent au vernissage. Il ne rencontrera aucun amateur, aucun acheteur, aucun journaliste. Au lieu de ça, les deux fugitifs bronzes et sème sous le soleil hivernal de Catalogne. Dali fait corps avec ce moment. Ce qui le bouleverse, c'est que l'éclosion de son amour a pour cadre ce bord de mer. Tous ces éléments qu'il adore, avec une fidélité quasi fanatique, comme il dit. Il connaît tous les recoins, les moindres formes des criques. Désormais, il va tout faire pour que sa vie sentimentale et érotique y soit imprimée. Il lui faut, comme creuset de son coup de foudre, ce coin de terre et de Méditerranée consumé de soleil. C'est là qu'il est né par un matin semblable à celui où, écrit-il poétiquement, les Grecs et les Phéniciens ont débarqué dans les golfes de Rosas et d'Ampurias pour y préparer le lit de civilisation et les draps de ma naissance, s'installant au centre de cette plaine de l'Ampurdan, qui est le paysage le plus concret, le plus objectif du monde. Et le voilà qu'il évoque pour Gala, les pêcheurs du cap de Creus, avec, sous le pli de leurs genoux, les rames qui dégouttent dans la mer et le revers de leurs manches qui essuie une larme de miel qui perle au coin de l'œil. Gala, Dali. Mais qui sont-ils intimement, à cet instant précis de leur idylle ? Ils sont en totale discordance. Dali est encore puceau, quelque peu androgyne, avec une sexualité limitée à un onanisme effréné, dès son adolescence. Il se croit impuissant depuis qu'il a comparé son sexe avec celui de ses camarades sur la plage de Rosas. Il a une peur panique des maladies vénériennes. Son ami très proche, le poète Federico Garcia Lorca, amoureux de lui, à multiplier les approches. Mais il n'a pu le convaincre d'avoir des relations homosexuelles avec lui. À 25 ans, voilà ses seules expériences. Quel contraste avec Gala. Elena Dimitrievna Diakonova, de son vrai nom, elle a 35 ans. Elle est née à Kazan, capitale des Tartares, dont la beauté des femmes faisait les délices des Russes et des sultans d'Orient par leur volupté. Gala semble en être l'héritière. C'est elle qui entraîne un Paul Éluard tout jeune vers la sensualité et l'érotisme. Il est un excellent disciple, un bel homme, séducteur, explorateur de lieux de plaisir. Gala se révèle nymphomane, exhibitionniste, voyeuse. Tous deux vont entraîner le peintre Max Ernst dans un ménage à trois où le voyeurisme plaît à Éluard. Le poète aime l'amour à plusieurs, prend plaisir à regarder ses amis faire l'amour à Gala, puis à se joindre à eux. En 1923, c'est avec beaucoup de complaisance qu'elle a servi d'appât afin d'attirer dans leurs jeux érotiques le peintre italien Giorgio de Chirico. Elle y prendra vite goût. D'autant que son attitude libérale en matière de sexualité suscite le respect de tous les surréalistes, partisans de l'amour libre. Elle deviendra leur égérie ou leur partenaire, c'est selon. Après l'escapade à Sitges, retour à Paris. Mais Dali veut au plus vite retrouver son Cadaqués. Il se refuse à regarder tout autre paysage. Il s'en nourrit pour peindre. Ils sont démunis, ils sont pauvres. Bienveillant, le vicomte de Noailles se propose de payer à l'avance une autre toile. Cet argent finance leur voyage de retour. Ils souhaitent s'installer dans le lieu de leur rencontre. La fille de l'Est a pris goût au soleil, la Parisienne, est devenue une sauvageonne musclée qui ne porte plus que des shorts. Mais en arrivant à Cadaqués, les soubresauts de l'accueil vont glacer leur bonheur. D'abord le père. Le notaire acariâtre, apprenant l'absence de son fiston à l'exposition à Paris, condamne cette légèreté, d'autant que c'est lui, en bon notaire, qui a négocié le contrat avec le galeriste, Camille Goumans. Il insulte, désavoue son fils, parle de gros sous et attaque sur l'affaire Gala. Une femme mariée, 10 ans plus âgée, qui passe pour droguée et prostituée. La sœur Anna Maria jette de l'huile sur le feu. Le père met son fils dehors, le chasse, parle de le déshériter. Où cacher leur amour? Ils se présentent à l'hôtel Miramar. On refuse de les accepter. Le père a parlé. Ils sont donc interdits de séjour, bannis, paria. Les habitants refusent de les saluer. Il leur faut donc trouver un refuge à eux, en dehors du village tant aimé. Ce sera une baraque, une vraie. Ils n'auront que ça. Dali se souvient que, quand il escaladait les rochers du cap de Creus, il avait découvert une vieille remise où il déposait son matériel de peintre. C'était à Port-Ligat, un lieu perdu, mais de l'autre côté, loin de la vindicte des gens de Cadaqués. Ils s'y rendent, traînant leurs valises. La baraque est toujours là. Elle appartient à Lydia Noguer, la veuve d'un marin qu'on dit sorcière. Une autre paria. Ses enfants y remisent leurs filets et nasses de pêcheurs, car ce bout du monde appartient aux pêcheurs et rien qu'à eux. L'un des endroits les plus arides de la terre. Les marins y sont d'une sauvage et âpre gaieté et, le soir, d'une morbide mélancolie, précise le peintre. Lydia accepte de leur vendre pour 500 pesetas la masure minuscule et délabrée. Ainsi commence la plus dure et la plus intense période de leur vie. Le paysage que Dali contemple chaque jour, la lumière qu'il recueille, vont devenir la constante visuelle de sa peinture. La plage, les rochers, la mer, les barques des pêcheurs, les poissons, les oursins qu'ils ramènent, c'est tout. Ils entrent dans un autre monde. Le leur et Cadaqués est à 2 kilomètres. Le 20 août 1930, un an après leur rencontre, ils emménagent dans leur cabane d'exilés. Elle fait 4 mètres carrés de superficie, sans eau courante, sans électricité. Ils vont vivre avec des lampes à pétrole et des brûleurs à essence. Leur seul contact, Lydia, ses enfants, parfois quelques pêcheurs tacites. Dali pêche, Galachine quelques meubles espagnols. La nuit, ils sont seuls dans ce désert marin. Une vraie existence intra-utérine. Dali raconte « Nous avions prévu de rester seuls pour voir ce qui allait survenir de nous. Nous allions poursuivre ce travail beau et tragique qu'est la vie commune, vivre pour notre propre réalité à tous les deux uniquement. C'est ce qui va les souder au cours des années 1930, du moins jusqu'à l'éclatement de la guerre civile espagnole. » Dans le froid mordant ou sous un soleil implacable, ils vont construire des murs pour se protéger du vent. Ils apprennent à s'appauvrir. Dali apprend à limiter, limer ses pensées. La vie dure, sans excès de besoins, sans vain, mais avec la lumière de l'éternité, rien que pour eux. Une lumière millénaire, pauvre, sereine. Cela vaut 1000 fois pour eux les lumières de Paris. Leurs repas sont d'une frugalité voulue. Poissons frais et oursins, sardines grillées au Cap des Creus avec les pêcheurs. Leurs deux êtres fusionnent. Gala se fait la gardienne de l'identité de Dali. Il peint la journée. De 21h jusqu'à 5h du matin, il écrit sans s'interrompre. Et Dieu sait si ses écrits sont d'une poésie mirifique. Gala, pendant ce temps, trie et classe ses notes. Tout cela en silence et solitude. Par économie, Dali demande aux pêcheurs qui ont fini de repeindre leur esquif le reste de bleu pour décorer sa porte. Il appelle ses portes ses meilleurs tableaux abstraits. Ses portes car la première cabane ne sera qu'un premier module d'une demeure labyrinthique telle qu'on la visite aujourd'hui. De 1930 jusqu'en 1972, ils vont ajouter et faire ajouter des éléments suivant une succession de 9 stades de construction. Mais Gala restera un mystère, pour tous, pour lui aussi. Elle ne racontera jamais ses moments de Cadaqués, ni ceux de Port-Ligat. Elle gardera ses secrets pour elle. Elle se laissera aller à dire « Je suis le secret de mon secret ». Au début de leur rencontre, elle a compris très vite que recommencer le triangle érotique Max Ernst Éluard est impossible avec le névrosé sexuel qu'est Dali. Impossible également d'asservir son génie avec les armes et ses tactiques habituelles. Impossible aussi de réveiller chez lui la moindre jalousie sexuelle, lui qui semble se complaire dans l'auto-érotisme. Alors elle va s'attacher à sa personnalité hors du commun, à son mélange de timidité et de tyrannie amoureuse. Elle va adopter l'homme en même temps que ses paysages. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a flairé le génie de l'artiste. A-t-elle développé à son égard un instinct maternel qu'elle n'a pas pour Cécile, sa fille? Certains ont cru discerner un attrait pour la richesse. Mais Dali est pauvre. Sa carrière, sa notoriété sont naissantes. À la rigueur, la fortune de la famille Dali? Impossible. Le père et le fils ne se parlent plus. Dali risque d'être déshérité. Il faut donc chercher un autre mobile. Elle va donc tout faire pour se rendre indispensable à ses côtés. Le persuader qu'il a besoin d'elle 24 heures sur 24 pour le protéger, le guider, développer son génie de la peinture, devenir le grand Dali. Ce sera sa résidence, son port d'attache pendant 50 ans. Gala finira par quitter leur maison, considérant que la cohabitation avec Dali est devenue un enfer. À partir des 60s, Amanda Lear sera la seule à y coucher, à en devenir l'hôtesse. Cette belle blonde deviendra surtout le faire-valoir de l'excentrique artiste et inversement. Quand elle commencera sa carrière de chanteuse, elle enregistrera un hommage à l'artiste avec la chanson « Blood and Honey », inspirée de la peinture de son Pygmalion nommé « Le sang est plus doux que le miel ». C'est toutefois grâce à cet ancien mannequin que nous pouvons découvrir Dali sous son vrai jour. Il jouait un rôle en public, raconte un mandalire. Il commençait à rouler des yeux, à toucher ses moustaches. Il disait des conneries. C'était un numéro détestable. En tout cas, moi, je détestais ça. Dès qu'on se retrouvait en privé, que les journalistes étaient partis, il était adorable. C'était un amour. Il était attentionné. Il me récitait des poèmes. C'était Dr. Jekyll et Mr. Hyde. En public, il se croyait obligé de jouer ce rôle. Avec Gala également. Gala avait-elle perçu cela? Toujours est-il que Gala finira par revenir dans leur demeure d'ancien paria, pour y mourir, en 1982, près de lui, tournant ses yeux vers les rochers du Cap de Creus où tout avait débuté. Ce 10 juin 1982, Dali fermera tous les volets pour ne plus jamais y revenir. Il souhaitera vivre ses dernières années cloîtrées au château de Pubol, qu'il avait offert à sa Gala. Il y décédera en 1989, plus orphelin que veuf. Voilà pour ce récit de la rencontre entre Dali et Gala, que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Michel Carli.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.